Radio Grenouille, Radio Grenouille. 10 minutes, 10 minutes avec
la rédaction des 3-8. 10 minutes avec
The Real Hip Hop, Hip
Hop. Radio Grenouille, Radio Grenouille. 10 minutes.
La rédaction vous invite. 10 minutes avec
The Real Hip Hop, Hip Hop.
Nous sommes au téléphone avec Karim Amou qui est sociologue, membre associé du Centre Nober Herlias, et ses recherches actuelles portent sur les rapports de pouvoir dans les industries musicales, et il a publié un ouvrage qui s'intitule « Une histoire du rap en France » aux éditions La Découverte. Bonjour Karim Amou.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Merci à vous d'avoir accepté ce petit entretien. Alors je disais donc cet ouvrage « Une histoire du rap en France ». Alors d'abord, première question... Pourquoi avoir fait cette histoire du rap? Et une histoire, c'est qu'il y en a sans doute plusieurs de possibles?
Oui, exactement. C'est qu'il y a beaucoup d'histoires possibles, beaucoup de façons différentes, d'entrées différentes dans ces maintenant 30 ans de hip-hop et de rap en France. Et il me semblait qu'on avait besoin d'un livre qui aille dans le détail de certains aspects de cette histoire. Et ces aspects que je voulais mettre en valeur, c'était la question tout simplement de comment le rap a rencontré l'industrie musicale en France et comment, au terme de cette rencontre, le rap a pu durer en France jusqu'à devenir le genre musical majeur qu'on connaît aujourd'hui.
Alors on parle tout de suite musique, mais vous vous êtes intéressé aussi à l'histoire du mot rap.
Oui, alors rapidement, j'ai un peu remis en contexte l'histoire de ce mot en revenant à... un petit peu au contexte américain d'émergence. La notion de rap aux États-Unis, au départ, c'est quand même un mot de slang, d'argot africain-américain, qui veut dire baratiner, parler en essayant de séduire, ou alors parler de façon percutante. Et donc, c'était vraiment l'interprétation qui caractérise ce mot, une interprétation chansonnière particulière.
Et puis, vous êtes aussi parti finalement sur l'ensemble des pratiques désignées comme rap, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le rap comme genre musical.
Oui, ben, ce qui m'intéressait, c'était un petit peu de prendre en compte aussi ce qu'on a coutume, soit tout simplement d'écarter du revers de la main, soit d'évoquer de façon anecdotique au détour d'une phrase et d'y prêter une attention sérieuse, en particulier toutes les appropriations du rap par des chanteurs, des artistes de variété. C'était important pour moi parce que ça me permettait, par contraste, de mieux mettre en valeur la singularité de ce qui va devenir le noyau d'artistes qui vont fonder l'esthétique du genre rap dans les années 80. Et puis, ça me permettait aussi de comprendre les logiques des industries musicales, c'est-à-dire que ces premières appropriations, ou plutôt ces appropriations concurrentes des appropriations des premiers rappeurs spécialistes de l'interprétation rappée, elles sont vraiment importantes pour l'industrie de la musique au début des années 80.
J'aimerais qu'on se focalise un peu sur les années 90, parce qu'il se produit deux mouvements un peu parallèles et en interférence pour le rap. Il y a une sorte de devenir marchand du rap d'un côté, donc c'est la question des industries musicales, et dans le même mouvement il y a la mise en politique publique du rap. Alors j'aimerais qu'on parle de ces deux histoires parallèles qui ont lieu dans les années 90.
Oui, alors ces deux histoires, elles ont une source commune. Cette source commune, c'est la médiatisation, et notamment la médiatisation télévisuelle importante de quelques rappeurs au tout début des années 90, parmi lesquels on trouve, on se souvient des très grands succès commerciaux de Benebi dans un premier temps et de MC Solar, mais c'est aussi le moment où on découvre sur les plateaux télévisés des artistes oubliés depuis comme Lionel Day ou des artistes connus encore aujourd'hui comme IAM ou NTM. Et cette médiatisation, en fait, Elle jette vraiment une lumière vive sur ces artistes, et à ce moment-là, deux types d'acteurs sont susceptibles de se saisir du genre rap pour leurs intérêts propres. C'est l'industrie musicale d'un côté et c'est les pouvoirs publics de l'autre. Alors les pouvoirs publics, ça veut dire aussi bien un ministre de la Culture à l'époque, Jack Lang, qui s'affiche à la une du magazine VSD en parlant de la culture hip-hop et en disant « moi cette culture j'y crois », que des politiques publiques beaucoup plus locales, autour du travail social ou autour de l'animation, qui vont utiliser des ateliers ou des activités liées au rap pour se rapprocher de leur public, notamment la jeunesse.
Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on peut dire que finalement ce genre musical se retrouve étroitement associé aux questions des banlieues ?
Enfin, c'est la thèse que je défends dans le livre, oui, c'est que cette association étroite aux banlieues, dans la représentation commune, elle émerge d'un processus d'amalgame médiatique qui se joue vraiment, on peut le retracer très précisément en regardant les émissions télévisées de 1987 à 1991, parce qu'en 1987, on a des émissions qui vont parler du rap comme un nouveau genre musical, sans insister sur un supposé ancrage plus important ici ou là, et au contraire, à partir de 90-91, on va avoir de plus en plus d'émissions qui vont dans des reportages de journaux télévisés ou sur des plateaux d'émissions de talk show utiliser le rap pour susciter un débat autour de ce qu'on commence à appeler de plus en plus le problème des banlieues.
Alors dans les années 2000, le regard politique change un peu hein, sur le rap, puisqu'on passe à une phase qui n'est plus une phase de, disons, se servir du rap pour des politiques de la ville, mais à une phase de pénalisation politique du rap. On connaît les grands procès ou de ces dernières années à l'égard des chanteurs du rap.
Oui, c'est un tournant spectaculaire dans la façon dont une majorité de la classe politique se positionne par rapport au genre rap. Autant pendant les années 90, la première moitié des années 90, c'était plutôt une bonne volonté, parfois teintée un petit peu de paternalisme qui caractérisait le rapport dominant de la classe politique, ou alors une indifférence pure et dure. Hein, et à partir d'en fait les prémices de ce qui va être la transformation qu'on va connaître dans les années 2000, elle se joue au milieu des années 90, 96 à peu près, autour de l'affaire NTM, et puis elle va vraiment devenir spectaculaire lorsque notamment Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, va faire son cheval de bataille de la lutte contre certains groupes de rap et en particulier contre le groupe Sniper. Et dans son sillage, c'est toute une frange de la droite politique qui va incriminer de façon croissante au cours des années 2000 les rappeurs pour divers motifs et conduire un certain nombre d'entre eux dans les tribunaux.
Julien Valnet, ici à Marseille, a sorti un ouvrage qui s'intitule « Chronique de Mars ». Et finalement, dans son ouvrage, on peut voir qu'il y a un âge d'or du rap. Je pense aussi à Étienne Menu, qu'on entendra par ailleurs dans ce week-end hip-hop, qui a écrit un article dans la revue Audimat sur un âge d'or du rap oublié. Est-ce que vous considérez qu'il y a eu un âge d'or et que cet âge d'or est désormais passé pour le rap ?
En tant que sociologue, cette question de l'âge d'or, je ne peux la poser qu'en cherchant à expliciter un petit peu qu'est-ce qui serait l'aspect particulièrement qui distinguerait cette période qu'on situe en général à la fin des années 90. On peut parler d'un âge d'or en termes de vente de disques, puisque on a un nombre de ventes qui est spectaculairement important pour le rap français en particulier de 1997 à 2001-2002. À partir de 2002, la diminution des ventes de disques de rap, elle est liée à la diminution en fait des ventes de disques en général. C'est la crise du marché du disque qui caractérise toutes les années 2000, qui touche aussi le genre rap. En termes d'évaluation esthétique, je serais plus circonspect parce que on a certes une période où, à la fin des années 90, on a une production de qualité plus importante que ce qu'on a vu auparavant. C'est-à-dire qu'on a plus 3, 4, puis 5, comme on n'a pas de l'ordre de 3, 4 albums qui sortent chaque année, on a de l'ordre de 30 à 40 albums qui sortent chaque année à partir de la fin des années 90. Et donc, en ça, c'est un changement quantitatif qui amène aussi un changement qualitatif. Il y a de plus en plus de bons groupes parmi ces 30 ou 40 albums qui sortent chaque année. Mais est-ce que ça veut dire que dans les années 2000 et 2010, dans la masse d'albums qui sortent, qui est encore plus importante aujourd'hui, on n'a pas au moins autant de bons groupes? Je suis loin d'en être sûr. Par contre, c'est vrai qu'il y a toute une génération qui a découvert le rap avec cette période de la fin des années 90 où le nombre d'auditeurs de rap augmente de façon importante en France et qui sont peut-être nostalgiques de cette époque où eux ont découvert le rap.
Karim Amou, une dernière question. Vous parlez du featuring, en fait, finalement, comme pratique. J'ai le sentiment que le featuring, c'est une pratique un peu spécifique, non, à la scène rap.
Je pense que c'est pas une pratique spécifique, c'est plutôt une pratique particulièrement intensive dans le rap. Mais ces featuring, donc ces collaborations entre artistes, on les voit en fait de longue date dans beaucoup de genres musicaux différents. La particularité du rap français, puisque c'est là-dessus que j'ai travaillé principalement autour du featuring, c'est d'avoir vraiment systématisé ces collaborations et notamment de les avoir systématisées pour en avoir une utilisation publicitaire, c'est-à-dire que faire un morceau ensemble était une façon de faire connaître de nouveaux groupes, et c'est quelque chose que le rap de la fin des années 90 a inventé d'une certaine façon dans l'industrie musicale française et a systématisé et qui est encore une pratique très importante aujourd'hui.
Merci Karim Hamoun, je renvoie les auditeurs vers votre ouvrage Une histoire du rap en France, publié aux éditions La Découverte, et puis également votre site internet, car vous tenez un site internet sur l'actualité du rap, qui s'appelle surunsonrap.hypothèse.org.
Tout à fait, merci beaucoup.
Merci beaucoup Karim Hamoun.
Au revoir.
Radio Grenouille, Radio Grenouille. 10 minutes.
La rédaction vous invite. 10 minutes avec...
The real hip-hop, no doubt.